Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien. On a pas mal de choses à discuter ensemble aujourd'hui. On va, parce que, tiens, ça doit être les politiciens en deuxième jour de campagne électorale qui nous ont donné envie de parler du mensonge. Est-ce qu'on y voit un lien direct? Ben, c'est comme vous voulez. En tous les cas, ça nous donne l'occasion de se demander comment démêler le vrai du faux. Quand quelqu'un nous parle, puis que ça soit dans notre vie personnelle, au travail, dans d'autres contextes, vous savez, il y a des signes qui trompent. Et on aura justement des spécialistes du langage corporel tout à l'heure qui vont venir nous dire comment décoder le langage corporel, comment savoir si quelqu'un vous ment en pleine face ou s'il essaye de vous cacher quelque chose. Alors, je trouvais que c'était un sujet intéressant. On va recevoir l'actrice et auteure Jacinthe René. Vous savez que Jacinthe René, depuis quelques années, est une femme d'affaires. Elle vient de lancer un nouveau livre, La détox gourmande 2. On va parler de détox. C'est un mode de vie pour Jacinthe René. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de se détoxifier, que le corps fait son travail par lui-même. Et ça tombe bien parce que dans l'actualité, cette semaine, on avait la visite de l'actrice américaine Gwyneth Paltrow qui va lancer sa marque au Canada et qui a invité une trentaine de personnalités pour discuter de tout ça, de bien-être, de beauté, d'alimentation. Alors, on va parler de ça et on vient d'apprendre cette semaine en plus que l'huile de coco, apparemment, serait poison. Alors, on va parler d'alimentation et de toutes ces tendances alimentaires qui, parfois, nous laissent sur notre faim. Mais d'abord, je voulais qu'on revienne sur l'incident qui a touché le carrière Johnny Manziel. Si vous vous intéressez aux Alouettes, vous avez vu que Johnny Manziel a fait une commotion cérébrale il y a quelques jours qui a fait en sorte qu'il se sentait vraiment pas bien. Il a manqué les séances d'entraînement. Il semble qu'il reprenne l'entraînement aujourd'hui. Il sera pas du prochain match, mais une chose est sûre, c'est que ça nous donne l'occasion de parler de commotion cérébrale. Je pense que, je ne sais pas si vous avez des jeunes qui font du sport, je ne sais pas si vous avez déjà eu vous-même ce genre de problème. Il n'y a personne, pas besoin d'être un athlète là, hein, ou un joueur des Alouettes ou un joueur de hockey, parce que nombreux sont les joueurs de hockey qui en ont fait. Ils ne disent pas forcément d'ailleurs, c'est ça le problème. Même les jeunes athlètes là, qui ont un espoir de faire une carrière ne le disent pas non plus parce que ben, on ne veut pas être laissé sur la touche, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, ce qu'on a envie de vous dire ce matin, c'est qu'il faut faire attention parce que pas besoin d'être un athlète pour en faire une commotion cérébrale. La preuve, je vais vous présenter un invité qui en a fait 4. Évidemment, 2 dans un contexte sportif, mais 2 dans un tout autre contexte. Djihad Kabbaj est avec nous. Merci d'être là, Djihad.
Un plaisir, bonjour.
Un jeune escrimeur qui a dû arrêter son sport à cause, justement, de commotion. Mmh. 2 en escrime et 2 à cause d'accident de la route. On va y revenir. Je vous présente notre grand spécialiste qui est professeur à l'Université de Montréal, grand spécialiste en neuropsychologie, spécialisé d'ailleurs en commotion cérébrale, Dave Ellenberg, qui a publié il n'y a pas longtemps un livre qui s'intitule « Tenir tête à la commotion cérébrale ». On l'avait reçu. On voulait absolument, Dave, que vous reveniez nous préciser les choses. Merci mm-hmm. beaucoup d'être là.
Merci.
Effectivement, je pense que vous êtes d'accord, pas besoin d'avoir une carrière d'athlète pour faire une commotion cérébrale.
Écoutez, la commotion touche tout le monde, les plus jeunes, les plus grands, dans différents contextes. En jardinant, dans la cour, on met le pied sur le râteau, il nous revole en plein front. J'ai vu ça à ma clinique. Donc, les contextes sont multiples et il ne faut pas juste... On parle beaucoup des sports, mais c'est intéressant, c'est important de penser aux autres aussi.
Oui, aux autres contextes, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on sait quels sont... c'est les commotions cumulées là, qui sont mauvaises. C'est
généralement,
pour ça.
Oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Bon, une commotion, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? À partir de combien on s'inquiète?
À partir de la première, parce qu'il faut bien la prendre en charge. Il faut s'assurer de mettre en place là, les bonnes étapes, avoir accès aux bons outils pour bien récupérer de façon saine. Et ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de symptômes ou qu'on peut éviter le plus possible des symptômes qui persistent. Parce que c'est normal d'avoir des symptômes dans les heures, dans les jours qui suivent. Mais ces symptômes-là devraient disparaître normalement après 2-3 semaines. À la suite d'une première commotion cérébrale, si elle est bien prise en charge. Ouais. Et évidemment, il y a un effet, parce qu'on en parle de plus en plus, un effet cumulatif. Après 2, après 3 commotions cérébrales, généralement, c'est là que les gens vont ressentir des effets au quotidien. Les symptômes qui ne partent plus, parfois, et aussi des déficits cognitifs qui se rajoutent à cela. Qu'est-ce que je veux dire par déficit cognitif? Problème de concentration, problème de mémoire, problème d'attention.
Et c'est là où Djihad entre en ligne parce que, bon, tu me racontais ton histoire et toi, tu en as eu quatre. Ouais. La première, c'était il y a 6 ans. Commotion légère, d'après toi, c'est ça?
Très légère. J'ai reçu un coup de coquille, en fait, en escrime à mon masque. Et puis, je me suis retrouvé sur le postérieur. Et puis, j'ai vu quelques petites étoiles, mais étant jeune et athlète, je me suis levé et puis j'ai recommencé à compétitionner en spot. Et j'ai pas...
T'avais quel âge, Djihad?
J'avais 16 ans. J'étais en pleine qualification pour les championnats du monde, d'ailleurs.
Wow.
C'est pour ça que j'ai décidé de continuer à compétitionner. Puis à cet âge-là, à ce moment-là, tu sais, j'ai pas ressenti des symptômes automatiques. C'était plus quelques mois plus tard, après ma deuxième commotion, que là, j'ai commencé à ressentir des symptômes un peu plus importants, mettons.
Comme quoi?
Comme des maux de tête. Comme des maux de tête plus fréquents, en fait. Des petits troubles de mémoire, un petit peu. Généralement, je me rappelle des choses quand même bien, mais là, j'ai des petits trucs qui m'échappent des fois, puis je sais pas pourquoi. Et puis, ça commence à expliquer des trucs, en fait.
Ah, ouais. Et est-ce que... Bon, là, c'est les deux sur les quatre commotions que tu as eues dans un contexte sportif, mm-hmm. comme escrimeur. Est-ce que... Puis, comme tu étais à un niveau quand même assez élevé mm-hmm. en escrime, est-ce que tes préparateurs physiques, tes entraîneurs reconnaissaient que c'était effectivement des commotions cérébrales que tu avais subies?
Pas du tout, en fait.
Est-ce qu'on t'a parlé de ça, non?
Je suis au courant du phénomène de la commotion parce que j'ai déjà joué au hockey, à la crosse, donc j'ai plein d'amis qui en ont déjà fait. Donc je connaissais les symptômes à peu près, les gens qui restent chez eux, pas de lumière, pas d'ordinateur, pas d'écran, pas de livre, rien, parce qu'ils ont trop mal à la tête. Mais tu vois, je me sentais pas comme ça. Moi, j'ai commencé à me sentir comme ça récemment après ma quatrième commotion. Wow. Et puis à la première, à la deuxième, j'étais tellement subjugué et omnibilé par ma compétition que je pensais vraiment juste à ça.
Ce que je comprends, ton entraîneur t'en parlait pas non plus. Il disait pas, faut faire attention, Djihad, là. Ce que t'as reçu comme coup, c'est peut-être une commotion.
Non, en effet, il m'en parlait pas.
C'est incroyable quand même, ça.
Mmh. Oui, c'est incroyable,
hein,
surtout
parce que
Djihad nous dit qu'il avait 16 ans. Hein?
Ouais.
Quand il dit que c'était une petite commotion, j'ai peut-être vu quelques étoiles, tout cela. Il n'y a pas de petite commotion. Il avait 16 ans. Le cerveau est plus fragile à cet âge-là. Et aussi, on sait que même si quelqu'un peut avoir peu de symptômes ou pas de symptômes, il peut quand même y avoir de l'enflure dans le cerveau. Tout comme on peut se blesser à la cheville va enfler, il n'y a pas trop de douleur, mais le cerveau a quand même été atteint. Et cette première commotion, la deuxième, ont peut-être mis la table aux symptômes aujourd'hui qui sont persistants, qui ont fait en sorte que la troisième et la quatrième ont eu une conséquence beaucoup plus grave. Parce que il n'y a pas eu nécessairement une bonne prise en charge.
Oui, c'est ça. C'est fou quand même. Puis on le dit d'ailleurs que c'est encore un tabou là, dans le milieu sportif.
Absolument.
C'est un tabou incroyable.
Absolument. Les jeunes veulent continuer à jouer. Mais Djihad nous l'a bien dit. Pour lui, il y avait une importance, une grande importance à la compétition à laquelle il participait.
Ouais.
Donc même si, je ne sais pas, mais même si tu avais ressenti à l'âge de 16 ans des symptômes plus importants, Qu'est-ce qui était plus important pour toi
à ce moment-là?
Ouais.
Franchement, c'est pas la seule blessure que j'ai eue. Des blessures multiples à mes genoux, à mes chevilles. Et je te dirais, quand on m'a dit une semaine avant les championnats du monde, on doit te plâtrer la cheville, je leur ai dit, je m'excuse, mais je m'en vais à Moscou. Je joue avant et après ça, vous me plâtrez.
Ah ouais.
Mais ça représente là. Ouais. L'attitude de plusieurs jeunes qu'on voit, des jeunes athlètes, des jeunes sportifs. Là.
Mmh. Et expliquons bien aux auditeurs, c'est quoi une commotion cérébrale exactement? Parce que vous parliez, d'Evelenberg, de l'impact sur le cerveau. Mais qu'est-ce qui est touché dans la commotion? Quelle est la différence, dans le fond, entre la commotion puis un coup sur la tête, entre guillemets, ordinaire, qui ne serait pas une commotion?
Mmh,
comment on arrive à démêler la commotion d'un autre coup?
D'un autre coup. C'est important de faire la distinction, mais de savoir aussi qu'un petit coup, même si ça ne cause pas une commotion cérébrale, peut à la longue avoir des conséquences. Donc, une commotion cérébrale, c'est quand le cerveau, ce tissu mou à l'intérieur de la boîte crânienne, se heurte assez rapidement, violemment contre les parois osseuses, puis ça va le blesser. Donc ça veut dire un coup direct à la tête, c'est assez évident, mais un coup à toute partie du corps qui peut faire en sorte que le cerveau va partir en whiplash, en coup de balancier, puis ça, le coup de fouet cérébral, là, et ça aussi, ça peut blesser. Donc on peut penser à une gymnaste qui tombe sur les fesses. Aucun impact à la tête, mais ça peut rebondir à l'intérieur de la boîte crânienne. Et évidemment, ce que ça fait, le cerveau, le tissu est écrasé. Il y a un écrasement, il y a un étirement parce que ça rebondit rapidement. Et ça peut blesser, endommager le tissu cérébral. Si l'intensité est assez importante, ça cause une commotion cérébrale. Mais on sait que des petits chocs qui ne sont pas assez gras pour causer une commotion cérébrale, mais à répétition, vont aussi endommager le cerveau. On peut penser, par exemple, aux joueurs de soccer qui font des têtes. Ouais. Je sais que c'est un tabou de parler de ça.
Le coup de boule.
Le coup de boule. On peut penser au plaquage au football. Il y a une étude tout récemment qui est sortie au sujet, aux mises en échec au hockey. À répétition, pendant une saison, même si l'athlète, après un coup, une tête, un plaquage, sans rien, quand on mesure ses capacités cérébrales en début de saison, puis à la fin de saison, puis on arrive même avec l'imagerie cérébrale, on peut voir qu'il y a eu des petits dommages à la longue. Donc, on peut penser à quelqu'un comme Jihad qui, ou quelqu'un d'autre, disons, pensons au soccer, au hockey, qui a plein de petits coups à répétition comme ça, et pouf, une commotion cérébrale, mais cette commotion cérébrale-là va se rajouter par-dessus tous les petits impacts.
Et ça veut dire, faites cumulatif. Attention à votre tête, là.
Oui, mm-hmm. C'est ça, le joueur de soccer, le joueur de hockey qui a eu une commotion, qui a eu le repos de 2-3 semaines, puis qui retourne à son sport.
Les gens qui tombent en vélo, là?
Ben, les gens qui tombent en vélo aussi. Ah ben là, si on fait la liste, on peut penser aussi aux professionnels. Il y a probablement des carrières, puis de plus en plus, je m'intéresse à investiguer cela. Des gens dans la police, dans le milieu de la construction, qui ont des carrières où le risque est beaucoup plus élevé aussi de commotion cérébrale. Ça va être important de se pencher également là pour comprendre les risques dans ces métiers-là.
Et les risques, il y en a partout, parce que donc, deux commotions dues à ton sport mm-hmm. d'escrimeur, mais les deux autres que tu as eues par la suite, dont une il n'y a pas très longtemps, mm-hmm. c'était sur des accidents de la route.
Tout à fait.
Raconte-nous, Jihad.
Ben, le premier s'est passé à l'hiver 2017. Je roulais sur le boulevard Saint-Laurent en plein hiver. Donc, on peut imaginer qu'il y a de la glace noire et la température n'est pas adéquate, n'est-ce pas? Je me suis fait couper par un taxi. Bref, les circonstances sont ce qu'elles étaient. Mm-hmm. J'ai dû éviter la voiture et j'ai embouti une voiture qui était stationnée en deuxième position. Et puis, je roulais lentement. Je roulais à 40 km à l'heure. L'airbag n'est pas sorti ni quoi que ce soit. Le fait est que je portais une casquette dans la voiture. Donc, ne conduisez pas avec vos casquettes, messieurs, dames. Parce
qu'est-ce que ça a fait?
Ça a empalé le plafond de ma voiture. Et c'est ça qui m'a donné la commotion. C'est que c'est le mouvement d'avant qui a bloqué avec le toit, ouais. Puis le whiplash en arrière qui a engendré la commotion.
Et t'as senti quoi à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens?
Ben, franchement, je sentais que ma mère allait me tuer à cause de la voiture, mais plutôt. mais ma tête, je sentais un mal de tête, je sentais un étourdissement, mais encore une fois, je me suis dit, ah ben, tu sais, c'est l'accident,
Est-ce que tu voyais des étoiles?
Non.
Est-ce que
non? Non, j'ai pas vu d'étoiles. Et puis, pour ça, j'ai été à l'hôpital. Directement le lendemain, je me suis réveillé le lendemain, j'avais des raideurs au cou, j'avais mal à la tête, je me suis dit, bah, c'est ça. Donc j'étais à l'hôpital, on m'a fait un rayon X au CHSLD, et puis on m'a dit, bah, on voit rien.
Mm-hmm. Au CLSC, tu veux dire?
Au CLSC, en fait. Ça,
je te souhaite pas le CHSLD tout de suite à 24.
Non, pas encore. Mais c'est ça, au CLSC. Donc,
est-ce qu'il y a eu un suivi pour... Ils n'ont rien vu, donc il n'y a pas de suivi pour commotion. Dave Allenberg, il n'y a pas ça. Là. Ça serait trop bon pour...
on en parlait avant l'émission avec GL. L'imagerie cérébrale conventionnelle qu'on retrouve en hôpital, en clinique, que ce soit la résonance magnétique ou les rayons X, ne voit pas les dommages associés aux commotions cérébrales. Nous, en laboratoire, avec des techniques beaucoup plus fines, on peut les percevoir. Comme je disais à Jihad, imagine, l'imagerie conventionnelle, c'est comme regarder une forêt d'une vue aérienne. Hein? On peut voir les circonvolutions, mais on ne voit pas, par contre, les branches des arbres, la sève qui coule dans les arbres. Et c'est ça qu'avec les techniques plus poussées qu'on a en laboratoire, qu'on peut voir qui est pathologique, qui est affecté par la commotion cérébrale. Donc,
qu'est-ce qui est microscopique. Justement, c'est où le vrai dommage est quoi? Il est sur le cerveau comme tel? L'espèce de gelée liquide, enfin, qui protège? Il est où le dommage?
C'est dans le cerveau, c'est le cerveau, on croit que c'est un dommage axonal diffus. Axonal, là, c'est les contacts, là, les embranchements là, qui vont relier les différents neurones, hein, et ça fait en sorte que les neurones peuvent communiquer ensemble. Ce qui nous permet de parler, de réfléchir, d'aimer un certain type de musique ou une autre, d'avoir de la logique, c'est les contacts entre nos neurones et c'est eux qui sont, par la commotion cérébrale, étirés, déchirés. Donc, malheureusement, le cerveau, quand il y a des déchirures, il ne se répare pas. Il s'auto-détruit.
C'est fini, là, c'est
Puis, il y a une autre chose qui se passe, c'est que la commotion cérébrale va causer un déséquilibre chimique qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de calcium qui sort des neurones, puis ça va causer une autodestruction parce que ça devient hyper excité. Donc, une excitotoxicité. Donc, les deux ensemble, les axones qui sont déchirés puis l'accumulation de calcium qui cause un peu plus de dommages, vont en fait détruire du tissu cérébral, et c'est cela qui va faire en sorte qu'on aura une commotion cérébrale. Bon, il y a d'autres facteurs comme une baisse d'oxygène au niveau du cerveau, une baisse de glucose, de carburant du cerveau pendant les jours, les semaines qui suivent, qui fait en sorte qu'ils peuvent expliquer les maux de tête. Et aussi, il va faire en sorte qu'on a besoin de plus de repos.
Ah ouais, c'est ça.
Qu'à l'habitude, ouais, pour permettre le cerveau de retrouver son équilibre.
Mm-hmm. Mais ça change la vie, c'est sûr. Et bon, Djihad, tu n'es pas trop découragé.
Non.
On va quand même. Là, tu es en bonne main. Remarque, le spécialiste d'Evelenberg.
Mais après ça, il y a des choses à faire. Hein?
Oui,
c'est
on
ça qu'on va
le dire.
En parler,
oui, oui,
là.
Tout à fait. Tu vas nous raconter après la pause ta quatrième commotion, qui est aussi dans un contexte d'accident de la route. Les gens peuvent vraiment s'y reconnaître parce qu'on en a tous vécu une espèce de coup de fouet cérébral,
absolument,
le coup du lapin, mm-hmm, où des fois tu tombes, mm-hmm, mal. Tu fais. Moi, j'ai ma fille, ma plus jeune, qui. Depuis, là, j'ai interdit tout le monde de faire du wake à la maison. On a vendu le bateau. J'ai dit, non, c'est fini. Là. Moi, je meurs. Elle a fait une commotion cérébrale. Elle a été sonnée pendant plusieurs, mmh, semaines. Mmh, mmh, à 14 ans, là, c'est inquiétant. Mmh. Donc, on va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Quelqu'un qui a eu l'occasion, justement, là, de témoigner sur l'impact des commotions cérébrales, c'est bien sûr le joueur de hockey Guillaume Latendresse. On lui parle tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde. On parle de l'impact et de la gravité des commotions cérébrales sur la vie des athlètes, mais aussi des gens en général. Puis ça, on l'oublie tout souvent, là, que pas besoin d'être un athlète pour subir une commotion cérébrale. On peut en avoir à peu près pour n'importe quelle chose de la vie qu'on fait plus ou moins bien ou qui peut nous arriver. Vous êtes sur la route, quelqu'un vous rentre dedans, Djihad, ça y est arrivé, commotion cérébrale. Évidemment, les athlètes sont les premiers à en subir parce que les sports, pensons à ce joueur des Alouettes, Johnny Manziel, là, qui visiblement, insiste pas trop sur le fait que c'est une commotion. Hein. Je pense qu'on insiste, mm-hmm, pas trop là-dessus. Mais n'empêche, c'est ça. Des joueurs de hockey, puis on pense tout de suite à Guillaume Latendresse. Guillaume, qui est avec nous, qui a fait 6 commotions cérébrales. Merci de prendre le temps, Guillaume, de nous parler. Ça change la vie, la commotion cérébrale, et surtout quand on en a 6. Hein.
Oui, exactement. Ben, moi, je crois que le problème avec les 6 que j'en ai eu dans le passé avant ces 6-là, les 6 que j'ai eu dans le fond, c'est 6 dans les 3 dernières années de ma carrière. Fait que je pense que c'est ça qui a été le plus gros trouble. Ça a été des avoirs dans un espace assez restreint, ce qui fait en sorte que les dommages s'accumulent. Les dommages, à chaque fois que j'en avais une de plus, il y avait des symptômes qui s'ajoutaient. Donc, c'est ça qui venait épeurant. Donc, je pense que c'est plus le laps de temps puis le nombre au final. Mais disons que si c'est en 3 ans, c'est certain que ça n'a pas aidé. Là.
Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu ressens les symptômes encore de ces commotions répétées?
Oui, oui, ça fait 5 ans aujourd'hui là, que je suis, à peu près 5 ans que j'ai pris ma retraite du sport professionnel. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance, là, je suis bien suivi par mon médecin de famille. J'ai eu la chance d'aller voir des docteurs avec le centre de traumologie à Montréal, McGill, avec docteur Delaney. Donc, je suis plus suivi, je suis médicamenté, mais oui, il reste avec, même à ça, j'ai encore des séquelles là, de ces commotions-là. Je pense qu'ils vont rester quand même à long terme ou pour la vie. Là, espérons qu'ils vont s'atténuer et qu'ils vont être mieux, mais il reste que je pense que ça va faire partie de la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Là.
Ah oui, dans ta vie de tous les jours, ça veut dire quoi, Guillaume?
Bon, ça veut dire quand des troubles de sommeil, de l'anxiété, du stress que j'avais jamais eu avant, des sauts d'humeur, beaucoup de hauts et de bas. Des fois, ça va super bien, des fois, ça va moins bien. Tu te dis, ben, pourquoi ça va pas bien quand ça allait super bien? Donc, c'est vraiment pas être en contrôle de sa personne un petit peu. Là. C'est comme j'essaie de l'expliquer souvent, c'est j'ai mes souliers, mais je suis pas dans mes souliers. T'sais, c'est pas, on dirait que c'est pas mes souliers tout le temps. Je suis pas en contrôle de la personne que je suis toujours, mais comme j'ai dit, là, ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Fait qu'aujourd'hui, je suis un peu plus en contrôle, mais il reste que il y a encore des parties qui doivent s'améliorer.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis avec je suis analyste là, depuis je commence ma 5e année avec RDS.
Ouais.
J'embarque aussi sur la tournée des anciens Canadiens. On fait des matchs à travers le Canada, donc ça me permet de...
Ouais, c'est ça, je veux savoir, tu fais encore des matchs de hockey, mais tu dois te tenir loin de la bande quand même.
Ouais, exactement. Là, c'est des ligues de garage là, vraiment où je fais vraiment attention, puis disons que je suis loin d'être à 100%. Là. Donc, c'est vraiment juste pour s'amuser, puis aller, tu sais, c'est des causes. On ramasse de l'argent pour des fondations à travers le Canada, fait que je pense que c'est important de s'impliquer là-dedans. Donc, c'est ça que je fais. Depuis les 4 dernières années, j'étais entraîneur, mais 3 au Collège Charlemagne avec des jeunes de 15 à 17 ans. Cette année, j'ai débarqué de ce programme-là, mais il reste que j'ai eu la chance de côtoyer les jeunes, puis justement de voir de près comment qu'on est pas assez sensibilisé, même si la Ligue Major 3 fait un excellent travail.
C'est ça. On parlait, je suis en compagnie de Dave Ellenberg, le grand spécialiste neuropsychologue des commotions au Canada. Et on parlait du tabou, en particulier chez les athlètes professionnels comme toi. Tu sais, toi, t'as déjà dit, Guillaume Latendresse, que si t'en avais parlé à quelqu'un à l'époque, c'était fini de ta carrière, tu te disais, mon Dieu, il n'y a jamais personne qui va me re-signer. Fait que t'en parlais pas.
Non, on t'en parle pas, puis ça devient difficile aussi de vivre avec ça au quotidien. Puis, mais tu sais, il vient un degré, tu sais, il y a eu des commotions que j'ai eues, parce que, tu sais, quand j'entends des joueurs ou du monde me dire, ah, j'ai réussi à jouer, moi je suis pas d'accord avec ça, là. Moi, j'ai été 3 mois dans le noir pour mes 6 dernières commotions, là. Tu sais, là, j'étais sur une chaise comme une personne de 80, 90 ans, puis j'avais 22 ans, 23 ans, là. Fait que disons que moi, j'avais pas aucune question que je sois capable d'embarquer sur une patinoire, là. Un mois après mes commotions, j'allais juste en véhicule, puis j'étais même pas capable d'aller en véhicule, là. Donc, je pense que le degré était quand même assez élevé, mais il reste que, oui, le tabou est énorme. Oui, une fois que t'as progressé, une fois que t'es mieux dans ta réhabilitation, je pense que c'est important. Tu es capable de progresser, mais il reste que oui, il y a eu des fois qu'il aurait fallu qu'on soit plus prudent, qu'on fasse attention, c'est certain.
Ouais. Est-ce que tu aurais une question à poser à Dave Ellenberg? Parce que je pense qu'au niveau de ce que tu veux sans doute savoir, c'est est-ce que ça peut s'améliorer? Est-ce que ton état peut s'améliorer avec le temps, j'imagine, hein, Guillaume?
Ben, je parlais justement tantôt du tabou face aux jeunes, face à ces choses-là. Mm-hmm. Fait qu'au lieu d'être une question, je pense que c'est plus une félicitation là, que je suis à lui faire, parce que c'est important d'avoir des personnes comme lui qui s'impliquent. Puis justement, au niveau de la Ligue Major 3, je pense que Dr. Ellenberg, c'est une des personnes qui s'implique beaucoup, puis qui fait un suivi avec les jeunes. Les jeunes sont obligés de passer des tests en début de saison. Donc, je pense que c'est plus des félicitations que de poser une question vraiment. Là, je pense que c'est important d'avoir des docteurs qui prennent le temps pour nos jeunes.
Il faut souligner en effet que Hockey Québec a mis en place, mais Football Québec aussi ont mis en place beaucoup de choses dans les dernières années. Je sais particulièrement que Midget 3A, toutes les équipes ont des thérapeutes du sport ou des physiothérapeutes qui encadrent la pratique. Donc, il y a des choses qui se font. Il faut juste s'assurer que ça peut se traduire aussi aux autres niveaux, aux autres divisions qui ont un peu moins de sous que le 3A. Là.
Oui, effectivement.
Oui, exactement. Puis j'avais eu tu sais, je vous entendais en introduction. Puis c'est dans beaucoup de sphères, tu sais, on parle souvent du sport. Oui, nous autres, on est peut-être atteints plus directement parce qu'on est peut-être plus propice, on est peut-être mis plus à l'épreuve justement face à ces sports de contact-là. Mais il reste que l'an passé ou il y a 2 ans, quand j'ai fait l'entrevue avec Paul Arcand, le nombre de messages de gens que j'ai reçus qui subissent et qui vivent avec ça au quotidien, mais oui, nous autres, c'est de pas être capable de faire notre sport, mais quand t'es docteur ou quand t'es notaire ou comptable, ben ça devient compliqué aussi pour la vie, là. Puis justement, j'avais cette conversation-là hier avec des collègues. Je parlais de mon premier match hors concours où est-ce que j'ai mis fin à la carrière d'un joueur, Rob DiMaio. Puis aujourd'hui, ça fait 15 ans de ça, puis pas 15 ans, mais 10-12 ans, je me sens encore coupable de ça. Puis aujourd'hui, en vivant les répercussions de ces commotions-là, tu te dis, ce gars-là avait des enfants. Tu sais, moi, à 18 ans, j'avais pas vraiment. Je connaissais pas l'impact que ça pouvait avoir sur la vie de cet homme-là. Tu sais, lui, il avait 33, 35 ans. Il avait des répercussions beaucoup plus grandes que les miennes pouvaient avoir si je vivais la même chose. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans ses souliers, puis je peux te dire que ça sensibilise beaucoup l'impact, puis ce qu'on doit faire. Je pense que c'est là qu'on doit se rendre comme joueur, puis comme athlète, de pas juste penser, oui, c'est une game, oui, on veut gagner, oui, on a de l'argent à faire. Mais il reste qu'au final, le lendemain matin à 7h, le cadran sonne, puis les enfants sont là, puis l'école, mais quand t'es pas capable de le faire, ça devient extrêmement difficile.
Mais ce que Guillaume nous dit, c'est qu'il faut changer la culture du sport. Ouais. Je pense que des gens comme Guillaume sont vraiment importants pour ça, parce qu'encore les jeunes aujourd'hui, là, ils ont le goût d'aller geler l'autre petit joueur de l'équipe adverse, là, qui est super bon. Faut changer cette attitude-là, ces mentalités-là, c'est vraiment, vraiment essentiel si on veut pouvoir gagner, là.
Mais regardez, dans le cas du carrière des Alouettes, Johnny Manziel, là, on est tous là à dire, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient au jeu? Encore, il y a une pression qui est assez incroyable. Guillaume, as-tu suivi un peu ça? J'imagine que oui.
Oui, j'ai vu un peu là, que les docteurs de l'équipe disaient que c'était par rapport à des médicaments. Lui, c'est comme c'est un peu nébuleux comme situation. Je trouve ça dommage qu'on se camoufle un petit peu, qu'on essaie de cacher un peu tout ça.
Exactement.
Il reste que c'est un sport professionnel, on fait partie, les gens nous regardent, les gens veulent nous voir. On devrait être les premières personnes justement à essayer de sensibiliser et à essayer de montrer l'exemple. Puis d'aller de l'avant avec ça, il n'y a rien de mal à dire que Johnny Manziel a fait une commotion puis qu'il va revenir on sait pas quand, mais qui est suivi puis qu'il y a un protocole. Puis pour revenir au changement d'attitude puis de philosophie dans le sport, je pense que c'est important de pas oublier, là, tu sais, lorsqu'on joue au hockey, là, le but premier d'un contact physique, c'est d'enlever la rondelle à l'adversaire.
Ben oui.
C'est pas de l'envoyer dans la cinquième rangée, c'est de prendre possession de la rondelle. Quand même bien qu'un joueur qui est rendu dans la cinquième rangée, si j'ai pas la rondelle, je suis pas plus avancé parce que là, au final, le but, c'est de mettre la rondelle dans le filet.
Ouais.
Fait que c'est ça qu'on oublie souvent. On pense à vouloir aller faire la grosse mise en échec qui donne le spectacle. Mais au final, tout ce qu'on doit penser, c'est d'éliminer le corps du joueur, le bâton pour prendre possession du disque. C'est ça qu'on oublie souvent aujourd'hui.
Guillaume Latendresse, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. C'est un beau message que tu lances ce matin aussi. Écoute, bonne continuation, puis on te suit dans tous tes projets. Merci, Guillaume.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci bien. C'est un beau... je sais que c'est un modèle un peu pour Jihad, qui est un fan du Canadien puis des joueurs de hockey. On va s'arrêter ici, très courte pause. Effectivement, Guillaume Latendresse disait qu'il recevait beaucoup de messages de gens. Puis je peux vous dire que depuis le début de notre conversation tout à l'heure, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'envoient des courriels également. Des gens qui, effectivement, comme Valérie, n'ont pas forcément joué au hockey, mais tu te cognes la tête en tombant par terre. Après avoir essayé de grimper sur une chaise, tu as un effet whiplash quand tu tombes. Tout le monde vit ça.
À la clinique, la majorité de nos clients, ça vient pas. C'est pas des gens qui ont des blessures liées au sport.
Ouais. Puis elle me pose des questions par rapport aux petits enfants, aux bébés entre autres, qui peuvent tomber de façon répétée. On va bien sûr prendre les questions de nos auditeurs tout de suite après la pause. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Bien sûr, sans frais comme d'habitude, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez déjà. Des fois, c'est pas clair, on n'est pas sûr. Fait que posez des questions si vous êtes pas sûr. Est-ce que j'ai eu une commotion? C'était une commotion ou pas? Comment le savoir? C'est une des choses aussi qu'on va aborder après la pause avec le docteur Lemberg. Puis racontez-nous ce que vous avez vécu là-dessus. Et bien sûr, Jihad va poursuivre avec son histoire de sa quatrième et on l'espère la dernière commotion. Tout de suite après ceci. Restez là tout le monde. On parle de commotion cérébrale ce matin. On est en compagnie du docteur Ellenberg, qui est un spécialiste de la commotion cérébrale. On vient d'entendre le témoignage de Guillaume Latendresse, le joueur de hockey, qui est assez prenant quand même, parce que je pense que ce que Guillaume dit, c'est qu'il faut vraiment faire attention, puis il faut que tout le monde soit conscientisé. Ouais. Ça fait partie du travail que vous faites, docteur Ellenberg. Jihad est avec nous, Jihad Kabbaj, qui a vécu au moins, qui a subi au moins 4 commotions. Tu nous dis, bon, il y a peut-être des gens qui ont pas compris, quelqu'un qui m'écrit, là, il y a 30 ans, avoir des commotions comme... Il a peut-être fait une commotion lui-même, mais on rappelle que tu as 22 ans, et que tu as fait, à ce que tu connais jusqu'à maintenant...
À ce que je sache, 4.
À ce que tu saches, 4, peut-être d'autres. Ouais. Donc, là, tu as même décidé de mettre tes études universitaires sur la glace... Parce que tu as des symptômes importants.
Absolument.
Manque de concentration, incapacité de lire trop longtemps. C'est sûr que quand tu es étudiant en université,
c'est un peu compliqué.
Est-ce que ça t'inquiète, ton état, Jihad?
Oui. Il faut que je sois franc. Oui, absolument, ça m'inquiète parce que je suis quelqu'un... généralement, je me connais, puis je connais ma tête et je sais comment je me sens, mais là, je ne sais plus comment je me sens. Puis comme Guillaume Latendresse l'a si bien dit, tu as des jours où est-ce que ça va super bien, puis tu as des jours où est-ce que ça va super mal, et tu ne sais pas pourquoi, parce que tout va bien dans ta vie, supposément. Par contre, là, j'étais supposé avoir une session cet été, avoir quelques cours, puis j'ai vu que je devais lire un livre, et moi, je suis quelqu'un qui adore lire. Je dévore les livres, sauf que là, quand je lis 10, 15 pages, que ça me prend une heure les lire, et que je finis avec une migraine après cette heure-là, j'étudie en économie et sciences politiques, c'est de la lecture. C'est que de la lecture et de l'écriture. Donc, avoir à me concentrer, tout ça, je préférais peut-être mettre, mes études sur pause le temps d'une session au moins, voir comment ça se passe d'ici l'hiver ou peu importe. Puis, tu sais, comme tu l'as dit toi-même, on n'a qu'une seule tête. Donc, je préfère prendre soin de ma tête maintenant qu'en subir les conséquences plus tard.
Oui, effectivement.
C'est important, les symptômes. Les gens ne connaissent pas tous les symptômes des commotions cérébrales, mais lorsqu'ils persistent, quelque chose qui revient souvent, c'est les changements, justement, au niveau de l'humeur. Guillaume en parlait, Jihad en parle, changement au niveau de la personnalité, plus irritable aussi, la fatigabilité.
Tout à fait.
C'est la grosse chose. On s'attend toujours à avoir des symptômes spectaculaires, mais ce qui est le plus important, ce que les gens vont rapporter plus, c'est d'être la grande fatigabilité. Donc, ce qu'il pouvait faire avant pendant des heures, comme la lecture, après 15, 20 minutes, 30 minutes, dans le cas de Jihad, une heure, il n'est plus capable. Là. Il est épuisé, il a mal à la tête. Et c'est ce qui revient souvent.
On a Judith avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, j'ai eu 4 commotions en tout, mais 2 depuis décembre 2015.
Et, comment, Judith? En faisant quoi?
décembre 2015, en promenant mon chien, j'ai fait une chute sur la glace. Et ensuite, en mars 2016, on a eu un accident d'auto.
Ah, c'est ça.
Et, mais petit accident d'auto, là, dans le fond, rien de spectaculaire. Et moi, dans le fond, il y a deux éléments. J'aimerais connaître auprès de Dr. Hennenberg, quelle est la différence entre commotion et traumatisme crânien? Parce que suite à ma chute sur la glace, mon médecin de famille avait fait une demande pour que je sois pris en charge par l'équipe Centre montérégienne de réadaptation. Et eux m'ont refusé parce que quand je me suis présentée à l'urgence, là, j'avais des fractures, tout ça, là, j'ai dû être opérée d'urgence. Et eux, ils n'ont pas diagnostiqué de commotion. Ben, enfin, ils n'ont rien diagnostiqué parce qu'ils m'ont demandé comment je suis tombée, si je me souviens que je me suis frappée la tête, et j'ai dit « je me souviens pas ». Et à partir de là, ils ont dit « bon, vous vous souvenez pas, donc vous vous êtes pas frappé la tête ». Mais dans le fond, suite à tout l'accompagnement de spécialistes, on s'est aperçu que j'avais fait de l'amnésie. Et donc, dans le fond, il y a eu un premier refus, fait que, parce que eux ont dit finalement qu'ils m'ont mis dans une catégorie, je me souviens plus si c'est commotion ou traumatisme, mais pour eux, il y a une différence.
Okay. Donc, quelle est cette différence, Dr. Hennenberg? Ouais. Merci, Judith, de votre question.
En fait, il n'y en a pas de différence. Et à ma connaissance, je crois que l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux est en train de réviser tout cela.
Donc, parce traumatisme crânien ou commotion cérébrale, même chose?
Traumatisme crânien, c'est sur une échelle. Il y a léger, modéré et grave. Une commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien léger, de type qu'on peut avoir à la suite d'un accident de voiture, par exemple, quand la voiture va foncer dans un mur de briques à 60 km/h. Des termes comparables. Il y a des études qui ont analysé les conséquences, les séquelles, les symptômes des personnes qui ont eu un accident de voiture. Donc, on va donner le diagnostic d'un traumatisme crânien léger ou un accident d'origine sportive, où on donne le terme, on utilise le terme commotion cérébrale. Les conséquences initiales dans les premiers jours, premières semaines, sont les mêmes. C'est sûr qu'à plus long terme, les commotions cérébrales, donc celles liées au sport, peuvent être plus graves dans la mesure où on peut en avoir plus.
C'est ça.
Mais, et Mme Judith a tout à fait raison, encore aujourd'hui, dans le système médical, on fait une distinction, mais de moins en moins.
Hein, disons qu'on triage, c'était pas fort, là, si on comprend ce qu'elle a vécu.
Mais je crois que ça change. Ça change aussi parce qu'une sensibilisation qui se fait. Il faut réaliser que même aujourd'hui, la plupart des facultés de médecine n'ont pas de cours sur les commotions cérébrales.
Êtes-vous sérieux? Ils ne parlent pas de ça, les médecins?
Et on ne parle pas de ça. Il y a eu des études qui ont été faites par le docteur Charles Stater à Toronto, qui nous indique qu'en fait, il y a un pourcentage assez élevé de médecins qui n'arrivent pas à reconnaître les symptômes des commotions cérébrales. Donc, il y a toute une sensibilisation puis une éducation qui doit être faite là-dessus, je crois, de plus en plus là, que les universités doivent emboîter le pas.
On a Suzanne avec nous. Bonjour, Suzanne, on vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour pour votre émission, parce que j'aime bien vous écouter.
Merci.
Puis, particulièrement celle de ce matin, c'est ce qui arrive. Moi, j'ai eu un gros accident de camion en 2007, c'était justement sur la glace noire, comme tout le monde qui travaille, c'est un veut ou veut pas le changement de température, puis je reste toujours sur le bord de la rivière, mais il se fait comme une petite condensation, hein. Et puis ce qui arrive, ça s'est changé radicalement, puis je m'en suis pas douté, mais pas du tout. Et puis j'ai fait plusieurs tonneaux, j'ai eu justement le coup du lapin qu'on appelle.
Oui, oui, oui.
Puis sauf que j'étais pas attachée, puis ça va passer vraiment fort. J'ai fait plusieurs tonneaux, puis j'ai fini sur un arbre. Je remercie le bon Dieu de ne pas être paralysée.
Ah,
j'ai eu une super de grosse commotion, mais je me suis battue avec la SAC pendant 10 ans. J'ai perdu ma cause. Puis en plus, c'est les problèmes musculaires aussi, c'est chronique.
Avez-vous des symptômes aujourd'hui de la suite? J'imagine que les séquelles doivent être assez importantes encore.
Oui, c'est atroce. Puis je vous remercie parce que je cherche de l'aide, OK? Je suis suivie au CHUM par Dr. Blaise. Et puis c'est un super de bon médecin traitant. Sauf qu'il ne peut pas traiter pour ma commotion. Lui, il me traite pour la chronique de la douleur, les conséquences. Et puis ce qui arrive, c'est que quand le jeune homme il a dit que ça joue sur justement le tempérament,
l'humeur,
moi, l'humeur, la concentration. Moi, quand ça m'est arrivé, j'étais Claude, je parlais à mon conjoint à côté parce que j'ai de la misère à me concentrer. J'étais, je pense, un an sans pouvoir être capable d'écouter la télé, des nausées. Juste les images qui bougent devant la télé, là, j'étais comme j'avais des gros étourdissements, puis des nausées intenses. Et puis, c'est que ce qui arrive, c'est que même écouter de la musique avec la radio, j'étais pas capable. Ça me faisait trop mal à la tête. Ça a pris combien de temps, Claude?
Ce que vous rapportez, là, c'est quelque chose de commun. Les gens qui ont du mal à même regarder la télé et des symptômes qui vont persister même un an et demi, deux ans. Donc, ce que madame nous rapporte, là, c'est quelque chose
mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le suivi?
Donc là, c'est une intervention par une équipe multidisciplinaire. Multidisciplinaire, mais en premier, on doit, soit avec le physiothérapeute, thérapeute du sport, voir s'il n'y a pas une atteinte cervicale, parce que ça se peut que le whiplash, le coup de lapin, peut se déplacer les disques, là, les vertèbres au niveau cervical. Il y a aussi le système vestibulaire. Donc, à l'intérieur de l'oreille, il y a un circuit qui nous permet de d'avoir le sentiment d'équilibre. Et donc, les symptômes d'étourdissement, de fatigue, de maux de tête peuvent aussi être causés par cela. Encore là, l'évaluation en physiothérapie, thérapie du sport peut nous indiquer s'il y a une atteinte là. Si oui, eux interviennent.
Ça, c'est tout au privé, ça, hein? La physio, les
choses. L'intervention multidisciplinaire, dans ce cas-là, la plupart du temps, oui. Et lorsqu'on a fait ces interventions-là à la base, puis qu'il y a toujours des symptômes, donc on a traité le cervical, le vestibulaire, c'est plus un problème. Là, c'est au niveau du cerveau et c'est là qu'on a besoin d'une prise en charge par neuropsychologue, kinésiologue, parce qu'il y a des études qui nous indiquent que c'est la reprise des activités de façon systématique, de façon graduelle, à deux niveaux. Donc, un, de voir dans la vie de tous les jours quels sont les facteurs là, qui peuvent aggraver la situation, quels sont les facteurs qui peuvent augmenter. Donc, des fois, les gens prennent des mauvaises décisions au quotidien. J'ai vu une jeune fille, par exemple, qui travaillait au Subway, qui allait à l'école, qui jouait au volleyball à l'école et qui faisait de l'équitation tout en même temps et qui ne voulait rien arrêter. C'est comme, wow! Faut faire le ménage. On arrête des choses puis on réintroduit systématiquement en fonction des symptômes. Et parallèlement, l'intervention qui semble être efficace pour ces gens-là, c'est par l'exercice de façon graduelle, bien encadré, léger au début, et on augmente, mais ça, encadré par un kinésiologue.
Ouais. Merci beaucoup. Bon courage, Suzanne. On va aller à la pause là-dessus. Il y a Gail qui m'écrit quand j'avais 8 ans, j'ai fait une grosse commotion cérébrale, visage paralysé, vu double pendant plusieurs jours. Tout jeune, j'en ai guéri. Il y a 4 ans, j'ai eu un accident de voiture, whiplash, le fameux coup du lapin. La SAC n'a jamais voulu reconnaître la commotion, donc j'ai eu aucun soin. Depuis, impossible de me concentrer. J'ai pas lu un livre complet depuis. Grande fatigue, irritabilité, perte de mémoire et plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer mon état? Ce genre de courriel-là, je peux vous dire, j'en ai plusieurs. J'ai Roberto qui me dit qu'à 12-13 ans, il s'est frappé la tête sur un poteau là, dans la rue. Savez, il a vu des étoiles. À 17-18 ans, un autre accident en scooter, pas de casque. Finalement, aujourd'hui, à 40 ans, j'ai des migraines. Est-ce que ça pourrait être une conséquence des commotions cérébrales? Voyez-vous, là, il y a beaucoup de gens là, qui se posent ce genre de questions-là. On a avec nous Daniel. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Racontez-nous.
Oui, moi, j'ai 62 ans. En 2014, au bureau, j'ai vraiment rentré dans le mur de ciment, là, la tête. J'étais comme dans un blackout, mais j'ai pas perdu connaissance. Ça m'a pris du temps avant de bouger, puis après ça, là, je suis revenue à moi. Je suis allée à l'hôpital, on m'a pas passé de scanner, on m'a fait passer des tests neurologiques. On m'a dit, OK, c'est une semaine de congé, puis ça va être correct. Je suis repartie. Chez moi, je me sentais comme la tête dans l'eau, là, tu sais, pendant au moins, plusieurs semaines. Mais moi, ce que je me demande, c'était officiellement commotion cérébrale, mais on n'est pas encadré, on ne sait pas quoi faire. Moi, ce que je me demande, c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai été frappée par une voiture, j'ai vraiment perdu connaissance. À l'hôpital, ma mère me parlait, je me souvenais plus de rien. Est-ce que c'était une commotion cérébrale? Je ne sais pas. Après ça, à 9 ans, j'ai plongé dans une piscine, j'ai été abasourdie parce que j'ai frappé le fond. Je suis remontée, j'étais comme un peu abasourdie, mais j'ai jamais eu de mal de tête ou quoi que ce soit. Après ça, j'ai été refrappée encore. J'ai perdu connaissance, mais j'ai jamais senti de mal de tête toute ma vie.
Et aujourd'hui?
Évidemment, oui, aujourd'hui, je parle de concentration difficile, la mémoire courte, fatigabilité. J'ai 62 ans aussi, je me dis, c'est-tu l'âge ou tu sais, c'est ça.
Oui, docteur Allenberg, oui, c'est ça.
Le médecin 62 ans, c'est pas normal quand même. Là,
mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas prendre d'alcool? Ça veut dire, mais moi, j'en ai pas pris pendant 2 ans, mais si je prends un verre de vin, mettons, le lendemain, je suis comme un petit peu zombie.
Oui, tout à fait, mais une plus grande sensibilité à l'alcool, c'est quelque chose qu'on remarque chez les personnes qui ont des commotions cérébrales. C'est certain qu'à 62 ans, d'avoir des pertes significatives au niveau de la mémoire, de l'attention et tout cela, c'est pas dans la normale des choses. Par contre, on sait, des études qui nous indiquent, si on a accumulé des commotions cérébrales à l'âge adulte ou pendant l'adolescence, bien, notre vieillissement va être un petit peu plus rapide. Mm-hmm. Donc, on peut sentir un déclin plus rapidement. Ouais. Une chose qui est importante qu'on parlait hors d'onde avec Jihad, c'est que les gens, à la suite d'une blessure, retournent trop vite à leurs activités. Puis je pense que ça a été son cas. Là.
Toi, ta quatrième, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, t'as reçu, t'étais un accident de la route, t'as reçu une valise qui était
dans le coffre,
tu l'as reçu dans le cou.
En fait, c'est qu'on roulait sur la 720 au niveau du nouvel hôpital, du gros hôpital, puis il y a un pick-up qui s'arrêtait devant nous parce qu'il y a une empilade de voiture devant lui, et il s'arrêtait sec, et on roulait tous à 100-110 km à l'heure sur l'autoroute.
T'as dû freiner sec.
Moi, je ne conduisais pas, mais mon coloc a dû freiner sec, puis en deux secondes, on était dedans. On lui est rentré dedans, puis la voiture, c'est à la scrap, elle est finie. Mm-hmm. Puis franchement, grâce à Dieu, on est encore correct, parce que ça aurait pu être pire. Mais le fait est que j'ai eu le whiplash en frappant le airbag. Et quand je suis revenu sur mon banc, la valise a traversé tout le char.
Oh, mon Dieu.
Puis est venue frapper derrière mon repose-tête.
Et là, t'es retourné travailler tout de suite après?
Le lendemain, je partais pour arbitrer une compétition d'escrime. Puis tu sais, je suis étudiant, je vis tout seul, je paie mes propres affaires et tout ça. Donc, je suis responsable. À moitié.
Ouais.
Je pouvais pas m'empêcher de ne pas aller à cette compétition-là parce que c'est quand même un gros montant d'argent qu'on me donnait pour subvenir à mes besoins. Et puis, mais rendu là, au moins, j'ai été traité par, comme je disais au docteur, un chiro et un thérapeute sportif qui est un ami à moi. Et lui, c'est lui qui m'a dit « t'as une commotion ». Il m'a dit, rentre à la maison puis il va te faire diagnostiquer.
Mais ce que je remarque, c'est que les gens qui ne prennent pas du repos immédiatement après la commotion cérébrale, dans les jours qui suivent, jusqu'à une semaine environ, des fois deux semaines selon les besoins.
Faut rien faire, c'est repos total.
Repos à peu près total. Ouais. Cela leur prendra beaucoup plus de temps pour s'en mettre. Puis il y a des études qui soutiennent cela
pour
aussi.
Pour permettre au cerveau de désenfler, parce qu'il y a de l'enflure c'est dans ça. Une commotion. Hein, c'est ça.
De retrouver l'équilibre chimique et tout cela, de faire le grand ménage. Les études nous indiquent que les gens qui ne se reposent pas pour au moins une semaine peuvent prendre jusqu'à 3 mois pour se remettre des symptômes de leur commotion cérébrale. Donc, c'est important aussi de faire attention à cela.
Est-ce qu'on peut rattraper les dommages d'une commotion?
Est-ce qu'on peut rattraper les dommages d'une commotion? On sait que les gens qui ont des symptômes persistants, même si ça fait plusieurs mois, le repos à tout moment est quand même efficace. Donc, un peu comme faire un reboot avec l'ordinateur. Mmh. Il y a des études qui nous indiquent cela. Et après cela, c'est la prise en charge complète. Comme nous, à l'Institut des commotions cérébrales, c'est ce qu'on va faire avec le neuropsychologue, thérapeute du sport, kinésiologue, c'est de voir si les gens, d'identifier les déclencheurs dans la vie de tous les jours et de reprendre leurs activités de façon programmée. Mais en même temps, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de médicament qui peut corriger cela. Il n'y a pas de thérapie miracle non plus. Malheureusement, il faut aussi prendre cela en compte.
Est-ce que ça vaut la peine de pousser pour demander à son médecin qu'il prescrive un examen plus complet du cerveau? Parce que vous disiez tout à l'heure...
En neuropsychologie.
Pour voir les dommages, puis ensuite...
Pour planifier un plan d'intervention.
Toi, t'as pas eu ça, Jihad, jusqu'à maintenant?
Du tout.
Ça veut dire à l'école, avoir des aménagements. Jihad veut retourner à l'école, mais l'évaluation en neuropsychologie va pouvoir permettre d'identifier les difficultés cognitives et l'encadrement que l'université peut donner en termes de plus de temps pour les examens. Faire les examens dans une salle séparée, avoir des pauses supplémentaires au besoin, avoir le droit de prendre moins de cours par session dans un programme où qu'on est obligé d'en prendre 5, par exemple.
On a Jean-François, je vais lui parler vite, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Jean-François, allez-y, avez-vous une question?
Oui, bonjour. Moi, j'ai joué au football américain en Europe comme amateur pendant une dizaine d'années.
Oui.
Je sais que j'en ai fait quand même plusieurs. Je voyais le gazon vert quand je me relevais. Mais là, aujourd'hui, j'ai 50 ans, puis c'est un petit peu plus. J'aimerais savoir s'il y a moyen de consulter justement pour voir si on a des séquelles de ça, parce que bon, moi je pensais que j'avais des petits troubles de déficit, là, un peu comme c'est la mode, mais j'entends vos conversations, puis je me posais la question s'il y avait moyen d'avoir, des examens pour qu'on puisse savoir si on a eu des commotions puis si le cerveau est
C'est une bonne question.
Mais pour connaître, c'est ça, l'état du cerveau, c'est-à-dire ses capacités cognitives, mémoire, attention, capacité d'organisation, planification, tout ce qu'on a besoin pour bien fonctionner dans la vie de tous les jours. Là, c'est une évaluation complète en neuropsychologie. On peut voir notre médecin de famille, certains CLSC vont offrir ces types d'évaluations-là, mais la plupart du temps, les gens doivent aller au privé, malheureusement, pour obtenir ces services-là.
Bon, ben voilà, c'est ça. Ben merci beaucoup, Jean-François, de votre question. Merci, Jihad.
Plaisir.
Repos.
Toujours.
Fais attention à ta tête.
Retour progressif. faut pas lâcher l'école, quand
non,
même.
Non, tout à fait.
Non, non, ça, c'est un bon point. C'est
ouais,
un bon point.
Absolument.
Docteur Ellenberg, on va rappeler votre livre qui s'intitule, c'est un collectif qui s'intitule « Tenir tête à la commotion cérébrale ». Il y a plein de bons conseils là-dedans. C'est vraiment très, très bien écrit. Merci beaucoup, en tout cas, de parler de la commotion. Merci bien. Merci, Gian, d'être venu.
Ça fait très plaisir, merci
bien. Puis là, tu as rencontré le bon docteur.
C'est parfait, merci. Ouais.
On va s'arrêter ici. Très courte pause. Tout de suite après les nouvelles, on va se demander comment savoir si quelqu'un nous ment. C'est de bon ton avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite après les nouvelles. Restez là, tout le monde.